et bienvenue sur BFM Lyon. Cop Gone, c'est parti, c'est la rentrée 2024, une rentrée avec le sourire, puisque l'Olympique Lyonnais a gagné. Hier, c'était en Coupe de France, on va en parler évidemment. Ce soir, soyez les bienvenus, Édouard G, toujours présent en 2024, avec, s'il vous plaît, nos papillons. Bonsoir Édouard.
Bonsoir Élodie, bonsoir à tous, clin d'œil à Maëva.
Qui voilà. Vous l'a offert, qui effectivement, l'a offert, voilà. En retard sur le Secret de Santa, on balance tout, de BFM Lyon. Une très bonne année, plein de belles choses pour vous. On espère une saison sportive un petit peu plus...
Sportive.
Plus sportive, voilà. Exactement. Hein. Face à
et
vous,
la santé, bien
Jafar
évidemment.
Demdoum, le capitaine du club de Lyon, la Duchère. Bonsoir Jafar.
Bonsoir Élodie.
Un plaisir de vous retrouver, une très belle année également à
merci,
vous aussi.
Merci, vous aussi.
Et une belle année à Maxime Feuillet. Bonsoir Maxime.
Très bonne année Élodie.
Merci d'être avec nous. Donc, on va parler de la qualif de l'Olympique Lyonnais en ce week-end de Coupe de France. Mais d'abord, j'en profite Jafar. Je vous ai sur le plateau. Ouais. La Duchère aussi jouait ses 32e de finale de Coupe de France. C'était samedi face au Puy, à la maison. On a voulu y croire, on y a cru, notamment en fin de match. Vous revenez à 2-1. Malheureusement, ça ne passe pas. La déception, j'imagine, encore aujourd'hui. Mais qu'elle est belle, quand même, cette saison de Coupe de France pour la Duchère.
Ouais, comme on... là, à tête reposée, on s'est dit qu'en vrai, on a fait un vrai parcours. On a éliminé 3 équipes avec des niveaux au-dessus de nous, surtout une Ligue 2. Bastia, on a gagné 4-1. Après là, forcément des regrets par rapport au match. On n'a pas fait ce qu'il fallait, mais on retient que du positif de cette coupe.
Et l'ambiance aussi, ouais. À chaque fois, vous avez eu la chance de recevoir dans cette Coupe
c'est
de
vrai.
France. C'était fou ce qui s'est passé au stade.
Ouais, là, surtout quand on a mis le but du 2-1, là, j'ai jamais vu une ambiance comme ça là, depuis le début d'année. Ouais. C'était incroyable. Après, on n'a pas eu la force pour essayer de revenir. C'est dommage. Peut-être l'année prochaine, on espère.
Est-ce qu'il y a un petit regret quand même, après coup, de ne pas avoir tiré au sort pour ces 32e de finale un club de Ligue 1? Je crois que vous, personnellement, vous rêviez d'affronter le Paris Saint-Germain.
Je l'avais dit à vos collègues de les plus grosses équipes, PSG, Lyon, Marseille, puisqu'on avait déjà éliminé des équipes du niveau national, N2, tout. Donc bon, après, C'est la coupe, c'est le tirage, hein, on n'y peut rien, mais on espère encore une fois l'année prochaine tomber peut-être un gros et encore une fois refaire un bon parcours.
Et c'est un très beau parcours pour la Duchère et vous allez pouvoir vous concentrer sur le championnat aussi maintenant. Parce qu'on le rappelle, vous êtes invaincu, leader du championnat de National 3. Donc maintenant, hop, deuxième partie de saison, on confirme tout ça pour monter en National 2. Et en ce qui concerne la Coupe de France, il reste le petit poussé qui est chez nous. C'est un peu une fierté, Saint-Priest qui a battu Feur hier et qui attend avec impatience son adversaire pour ses 16e de finale. Et donc l'Olympique Lyonnais, on y vient. Les joueurs de l'OL qui ont réussi leur rentrée en 2024 avec ce 32e de finale de Coupe de France face à Pontarlier, club de National 3. Les Lyonnais ont su être patients face à des amateurs qui étaient bien en place hier à Besançon. Après un but refusé pour hors-jeu, c'est Ryan Cherki qui va ouvrir le score juste avant la pause sur une passe d'Alexandre Lacazette. De retour des vestiaires, Maitland-Niles double la mise, puis Corentin Tolisso va trouver Lacazette qui va marquer d'une tête décroisée. C'est son 12e but en Coupe de France à Alexandre Lacazette. L'OL qui s'impose 3-0, qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe de France. On écoute les réactions au micro de Pierre Thévenet.
Sur l'ensemble du match, on a fait respecter la hiérarchie. Je pense qu'on a bien géré notre match et il va falloir continuer comme ça. On sait que faire des suites de victoires, c'est très important pour nous, surtout sans encaisser de but. Il va falloir continuer comme ça, continuer de travailler comme on l'a fait en revenant des vacances pour pouvoir enchaîner encore et encore et on va rien lâcher.
Je pense pas qu'on a été mis vraiment en danger. Derrière, les gars ont bien fait le taf en couverture. Mais je pense que nous, devant, on aurait pu être peut-être plus efficaces. Donc on va travailler ça cette semaine pour être prêt pour le prochain match.
Pas forcément mis en danger, mais peut-être un manque d'efficacité en attaque. C'est ce que dit Alexandre Lacazette, Jafar. On va pas faire les difficiles. La qualif est là, c'est l'essentiel.
Ouais, effectivement, c'est le plus important. Ils ont respecté l'adversaire. Ils n'ont pas concédé trop d'occases et ils ont mis leurs 3 buts. C'est ce qu'on retient.
4e victoire de rang pour l'OL. Un nouveau clean sheet également, Maxime. C'est plutôt pas mal pour débuter l'année. Quatrième, ça nous met un peu de confiance, non?
Quatrième victoire, quatrième clean sheet, c'est parfait, ça commence bien l'année.
Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu sur ce plateau avec ce sourire.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné 4 matchs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné 4 matchs d'affilée, donc c'est bien, même si c'était face à un adversaire d'une plus petite division. Il fallait gagner ce match, il fallait ne pas en prendre aussi. Ça a été chose faite. On a vu un Alexandre Lacazette un petit peu soucieux du manque d'efficacité offensif. Il faudra être un petit peu plus réaliste sur les autres matchs parce que ce ne sera pas toujours des adversaires de cette division-là.
Et oui, Edouard, parce que sur le papier, super, qualif pour les 16e de finale, quatrième victoire de rang, une victoire 3-0, c'est plutôt pas mal. Mais en face, c'est Pontarlier, club de National 3. Est-ce que cette victoire 3-0 est réellement suffisante si on veut chipoter un petit peu?
En fait, vous rajoutez qu'il n'y a pas de blessés, parce que mine de rien, c'est le genre de terrain et de période. Au niveau des cartons, on a pu bien gérer au niveau du staff les entrées, les sorties. Donc tout va bien à ce niveau-là. Et puis, moi, j'ai senti qu'il y avait en fait de la sérénité dans ce match, parce que, au contraire, par exemple, de Dupuis qui a marqué assez rapidement. Ou de Toulouse hier par exemple à Chambéry, dans le même type de match, même différence, là ils ont mis du temps à marquer le premier but, pourtant il y avait des bonnes actions, etc. Il a fallu attendre juste avant la mi-temps pour être libéré, mais on n'a pas senti d'affolement, on a senti quand même une équipe à peu près sereine. Alors vous allez me dire, il y a l'écart, mais l'écart souvent en Coupe de France il est nivelé par le terrain, et on a vu que le terrain n'était pas forcément top, et puis justement par ces minutes qui s'entassent là, et quand on voit l'équipe la plus petite qui n'encaisse pas de but. Donc ils auraient pu s'affoler, là ils ont continué de jouer, il y a eu ce premier but et puis les deux autres juste à l'entame de la deuxième période. Donc le plan s'est déroulé sans accroc, comme on dit.
Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, Jaffar, dans cet Olympique Lyonnais version 2024?
Comme les derniers matchs de Pierre Sage, une solidité défensive, déjà ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions. Ensuite, dans le jeu, je trouve que c'était plutôt cohérent dans les mouvements des joueurs, que ce soit Maitland-Nagy, j'ai bien aimé Ryan Cherki aussi, on se sent un peu plus libéré, ça fait plaisir. Et offensivement aussi, il propose beaucoup plus de choses, un peu plus de liberté peut-être, je sais pas, mais c'est un OL qui pour l'instant fait plaisir depuis qu'il y a Pierre Sage.
Un OL qui fait plaisir, un OL qui gagne. Est-ce qu'il y a quand même des petites choses encore, Maxime, dans le jeu de l'Olympique Lyonnais qui vous inquiète un petit peu? Vous vous dites, attention, faudrait peut-être être vigilant sur tel ou tel point.
On en parlait tout à l'heure de ce manque d'efficacité offensif. Moi, j'ai eu un peu de problème aussi sur les ailes. On a vu un bon Maitland-Niles. C'est pas forcément son poste à Maitland-Niles. Mais hier, il n'y avait pas beaucoup d'armes offensives à Lyon. On a vu d'ailleurs les trois joueurs à vocation offensive sont restés sur le terrain pendant les 90 minutes. Cherki, Lacazette et Diego Moreira. Pas Daniel Moreira, comme l'ont longtemps appelé les commentateurs de France 3. Il y a Ernest Nouama qui est parti à la CAN. Attention, on attend peut-être des recrues dans ce secteur-là, parce qu'il va falloir être meilleur offensivement et notamment sur les ailes.
Le groupe de l'OL, justement, Maxime, soulève quelque chose d'intéressant. Ça a fait pas mal discuter, on va le dire, hier, ce trio d'attaquants, Lacazette, Cherki, Moreira, les trois seuls attaquants du groupe, pas d'attaquants sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est normal? Certes, il y a la CAN, mais qu'on se retrouve rentrée 2024, premier week-end de janvier, week-end de Coupe de France, d'avoir seulement trois attaquants dans le groupe de l'OL.
Faut rappeler que le mercato a déjà commencé. Du coup, Tino Kadewere a été prêté avec option d'achat à Nantes. Donc ça fait une flèche offensive de moins. Jeffinho est retourné à Botafogo. Donc là, c'est un prêt dans un club satellite, un club de l'OL, qui l'avait acheté 10 millions d'euros l'année dernière. Donc c'est vrai que Pierre Sage n'a pas voulu appeler des petits jeunes pour éventuellement les mettre dans le groupe. Peut-être qu'il imaginait que ça pouvait se passer comme ça s'est passé, mais c'est vrai que faudra pas que ça dure très longtemps, parce que là, c'est un match face à une N3, hein, c'est ça?
Oui, ouais, N3,
donc il y a 4 divisions d'écart. Donc quelque part, les différences faites par Ryan Cherki ou Diego Moreira, peut-être face à des défenseurs de Ligue 1, ça ne fera pas la même chose. Hein. Donc, pas falloir que ça dure très longtemps. Et on sait que le mercato, là, il va se finir au 31 janvier. Donc, il va vite falloir trouver des solutions.
Excellent teasing. Le mercato, on va en parler dans la seconde période de Cop Gun avec vous, Edouard. Avant les top flops, j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur un moment important de ce 32e de finale de Coupe de France, la fin de match. Et l'entrée en jeu de Rémy Rioux, Anthony Lopez qui laisse la place à Rémy Rioux. C'était sa dernière avec l'Olympique Lyonnais. C'était voulu, Pierre Sage l'a dit, de tout le groupe, de faire ce cadeau à Rémy Rioux. C'est important aussi ce moment-là, Jafar, quand on est joueur.
Ouais, c'est important ce genre de moment. Là, on sait qu'il a une très grosse carrière, formée à l'OL, donc je pense que c'était normal qu'il joue ses dernières minutes. Et en plus, ça s'est bien passé, donc je pense que tout le monde est content.
Et on voit symboliquement Anthony Lopez qui remet le brassard de capitaine à Rémy Rioux, parce que oui, c'est vrai, Edouard, quand on parle de l'OL et des gardiens de but, on a le nom d'Anthony Lopez qui vient, mais Rémy Rioux, il a fait le taf aussi pendant plusieurs années.
Oui, il a fait le taf, il a fait toutes ses classes formation à Tolavologe, et puis après il est revenu quand le club était à Décines, donc c'est vraiment le joueur qui fait le lien entre les deux. Et puis au final il aura fait, et à l'époque quand il est parti de Lyon, il n'avait pas joué avec son club formateur, et c'était son rêve, et finalement il l'a fait, alors très peu bien évidemment, 11 matchs. Et hier, son entrée, je crois qu'il a touché zéro ballon.
Ah, il n'a pas touché le ballon. Ouais, voilà, c'est ce que disait Pierre Sage. Voilà.
Donc, c'est vrai que c'est tout autant symbolique, mais on a senti beaucoup à la fois de la classe dans ses propos, mais aussi voilà, de l'amertume de partir, parce qu'on en parlera, le mercato, voilà, il y a eu un gardien de but, on peut aussi s'interroger sur le pourquoi, les comment, mais en tout cas, voilà, on l'a un petit peu fléché en disant faut que tu partes, lui qui voulait pourquoi pas prolonger, et qui a été une doublure plus qu'intéressante, bien sûr, d'Anthony Lopez, même si malheureusement pour cette saison il y a ces faux pas face à Montpellier en début de saison, mais quand on voit tout le reste de la saison, tout le monde a fait son erreur, donc pourquoi pas lui. Et c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur, ça fait une autre image de l'ADN OL qui quelque part s'en va.
Et ses adieux donc hier à Besançon, et ces quelques minutes de jeu qui lui ont été offerts à Rémy Rioux. On passe au top flop de ce match contre Pontarlier. On va débuter avec les joueurs qui vous ont plu. D'abord, messieurs, Edouard, on en parlait déjà pas mal en fin d'année dernière.
Je crois que c'est devenu un chouchou.
Ouais, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va détrôner Maxence Cacré dans votre cœur? C'est peut-être l'enjeu de cette seconde partie de saison. Suspense. Jake O'Brien, le défenseur de l'Olympique lyonnais. Et face à vous, Maxime, sans vraiment grande surprise, vous n'êtes pas trop mouillé, vous avez choisi Ryan Cherki.
Plat du pied, sécurité. C'était un petit peu à l'image de son premier but, celui qui a été refusé, la belle volée du droit. Ouais. C'est rare de le voir marquer du droit, Ryan Cherki. C'est dommage que ce but ait été refusé, mais j'ai bien aimé sa prestation. On le sent face à une équipe qui était aussi d'un niveau un peu plus faible. On critique souvent ses prestations en Ligue 1. On adule ses prestations avec les espoirs de l'équipe de France. Là, c'était un adversaire un peu plus faible, et c'est peut-être un adversaire face auquel il a livré son meilleur match, Ryan Cherki. But, des belles actions, des belles combinaisons offensivement. Je pense que c'est l'un de ses matchs les plus aboutis depuis le début de saison. Donc, vive Ryan Cherki.
Est-ce qu'on doit être rassuré quand vous nous dites que c'est l'un de ses meilleurs matchs face à une équipe de N3?
Au moins, il était là, il a fait le jeu, il a donné des bons ballons offensivement, notamment à Alexandre Lacazette. Il a créé des décalages, il a créé des situations, c'était intéressant. Et heureusement qu'il était là.
Et ça peut donner pas trop de confiance. On se calme, soyez un peu humble, Edouard, et défendez-vous face à Maxime avec Jake O'Brien.
Je suis fan absolu de son engagement, je suis fan absolu de sa concentration, je suis fan absolu de son engagement, et je lisais l'interview de l'un de ses adversaires qui le chargeait sur les coups de pied arrêtés offensifs pour Lyon et donc défensifs pour l'équipe de Pontarlier. Il disait mais c'est incroyable, c'est vraiment difficile à défendre sur lui, mais j'ai gagné ma soirée, il n'a pas marqué. Parce que tous les ballons sur les corners, on a l'impression qu'ils sont aimantés par sa tête, et d'ailleurs ce joueur a échangé le maillot avec Jake O'Brien. Donc pour ce joueur, Jack O'Brien est le meilleur joueur du match, donc c'est forcément un top.
Et pour votre accent aussi, ça mérite un point.
Peut-être qu'il était irlandais aussi.
Jafar, qui vous a convaincu? Vous donnez le point à qui?
Je vais donner le point à Jack O'Brien.
Aïe, aïe, aïe. Bravo!
La régularité aussi.
On a travaillé ça samedi après le match avec.
Vous l'avez soudoyé, ouais, ça m'étonne pas. Vous avez été convaincu aussi par cette défense. On le rappelle, l'OL qui jouait sans Dejan Lovren, puisqu'il est suspendu.
Quatrième clean sheet de
suite. Ouais. Voilà, faut récompenser aussi ça. Si on prend pas de but, forcément on gagne les matchs. Et là, depuis 4 matchs, surtout qu'il y a eu des matchs compliqués, l'OL c'était solide. Bon, ils ont été en difficulté sur certains matchs, mais on voit quand même que là, il y a une confiance qui est en train de se réinstaller au niveau de la défense. Ça fait plaisir.
Et ça laisse un peu d'espoir pour la suite de la saison. Il y a quand même des choses qui ont moins bien marché. Les flops de ce match avec Edouard. Vous avez choisi Diego Moreira qui était titulaire devant. Et, Pierre Sage, on l'a dit, n'avait pas trop le choix avec ses attaquants qui sont un petit peu partis, notamment à la CAN. Jaffar, vous, votre choix s'est porté sur le champion du monde argentin, Nicolas Tagliafico.
Et ben, c'est un petit flop.
C'est un arrière-gauche.
Ouais, c'est un petit flop, on va dire. Il n'a pas fait un match catastrophique, mais on va dire, j'ai trouvé qu'il avait des temps de retard dans ses interventions défensives, voilà, même dans l'intensité et tout. Et offensivement, il n'a pas trop apporté. Donc, on va dire que c'est un petit flop. On sait qu'il peut mieux faire. Ça, il est souvent régulier, il fait souvent du bien. Mais là, je trouve que par rapport à l'équipe en face, il n'a pas fait un très bon match.
Pour un champion du monde, ouais, on l'attendait peut-être un petit peu plus face à
Vu que je suis latéral gauche, je suis plus tatillon sur ce poste.
Évidemment. Ouais. Edouard, Diego Moreira, pourquoi ?
Alors, c'est vrai que quand j'ai revu un peu les meilleurs moments, j'étais un peu moins... Je me suis dit, c'est peut-être pas finalement un flop, parce que s'il y avait eu le premier but, là, le centre avec le but du droit de Ryan Cherki... parce que ça joue à très peu de choses, hein, le hors-jeu. Voilà. Mais quand même, je trouve que face à une équipe de N3, il devrait faire plus la différence, plus rapidement. Alors, c'est avec le terrain, ceci, cela, mais normalement, s'il a le niveau que l'on dit face à une équipe et face à des défenseurs arrière-gauche ou autre de National 3, il doit faire plus la différence, au moins sur la fin de match, quoi, en fait. Donc, puis j'ai vu sur 2-3 actions défensives, il y allait pas trop avec de la conviction, donc manque de justesse, petit flop aussi.
Okay. Maxime, vous tranchez ?
Je suis pas comme Jaffar, je suis pas latéral gauche. je vais rejoindre Edouard sur le flop Diego Moreira, dont j'attendais beaucoup plus aussi sur un match comme celui-là hier.
100% d'Edouard aujourd'hui.
J'ai l'impression que c'est une victoire 2-0 d'Edouard Gilles c'est le Neupath qui a fait la diff.
Ouais.
Va falloir rester au niveau maintenant.
Ouais.
Pression la semaine prochaine, Edouard. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Pontarlier OL. Victoire 3-0. Donc, on l'a dit, la qualif pour les 16e de finale de la Coupe de France. Ça va arriver très vite, hein, puisque c'est le week-end du 21 janvier.
Oui,
si je ne me trompe pas, on aura le temps d'en reparler dans cette émission. D'abord, il va y avoir le retour de la Ligue 1 le week-end prochain. Un déplacement au Havre. C'est le sujet de notre prochain débat, juste après la pub. À tout de suite. On est de retour, seconde période de Cop Gone, objectif atteint, l'OL est en 16e de finale de la Coupe de France. On met la Coupe de côté, donc le temps d'un week-end et du retour de la Ligue 1 avec ce déplacement au Havre. C'est ce week-end, hein, dimanche 17h05, le coup d'envoi de ce match entre le Havre et l'OL. On voit le calendrier à suivre, il y aura la Coupe de France le week-end d'après, puis la réception de Rennes, de l'Olympique de Marseille également, qui va arriver très vite, Montpellier... Nice, on reste sur la dynamique évidemment, Jaffar, il y a ces 4 victoires de rang, on l'a dit, ce déplacement au Havre, il faut continuer à enchaîner de la confiance et à prendre des points surtout.
Exactement, ouais. Continuer là, ils sont sur une belle série, donc ce serait bien de la continuer. Après, je me rappelle du match aller Lyon-Havre, il était vraiment pas fou ce match, très ennuyeux, donc là on espère qu'on va avoir le nouveau Loël encore une fois, et pourquoi pas une victoire avec encore une fois un clean sheet.
Un déplacement au Havre dimanche après-midi, 17h05. On se dit pas trop d'inquiétude. Est-ce qu'il y a quand même un peu tous les ingrédients du match piège pour les Lyonnais ou pas ?
On se disait pas trop d'inquiétude déjà au match aller, comme le rappelait Jaffar, un 0-0 vraiment insipide. C'était en début de saison, on était encore confiants pour ce nouvel OL. On a vu les mois qui ont suivi qui étaient peut-être pas très 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 beaux. Là, il va falloir être tout de suite au rendez-vous sur cette deuxième partie de saison. L'attaque est tambour battant, l'OL est sorti de la zone rouge. C'est déjà une belle chose de fait. Maintenant, il faut continuer, il faut aller s'extirper de cette 16e place, essayer de remonter peut-être la 10e place qui a 3 points, je crois, c'est ça. Hein, donc, plus on va engranger de points, plus la confiance sera là et plus on pourra peut-être rêver en fin de saison.
Surtout qu'on sent, on l'a dit Edouard, cette équipe lyonnaise certes qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Pierre Sage et ses 4 victoires de rang, mais on sent que la confiance peut aussi très vite s'effriter, une contre-performance et les doutes pourraient revenir rapidement dans cet effectif.
On n'est pas tout à fait au sommet de l'ascension là, mais c'est vrai qu'on a pris quand même quelques sécurités si on image un peu cette montée qu'il faut faire pour justement aller grappiller des places. Et je regarde un peu le classement là dans ce deuxième championnat. Et c'est vrai que pour le gagner ce deuxième championnat, mine de rien, là, avec admettons une victoire ce week-end, l'OL peut être 12e. Vous imaginez en 4 matchs. L'OL pourrait passer de la 18e à la 12e place, puis remettrait un petit peu Le Havre justement dans cette cour des équipes qui peuvent descendre. Donc en sachant que pour le moment, Clermont et Lorient, clairement, c'est un petit peu en dessous. Donc après, moi j'ai vu Toulouse hier à Chambéry, c'est pas forcément très très bon non plus. Donc il peut y avoir symboliquement au moins déjà un petit point. Ça permet de relancer, de confirmer tout ce qui se passe et puis surtout d'envoyer des messages. Voilà, ça y est, ce qui s'est passé en 2024 peut se continuer en 2024.
Avant de jouer Rennes, Marseille, Montpellier, Nice, on l'a dit, où là aussi ça va être des rencontres compliquées. Avec quel effectif, justement, on est au mois de janvier, Edouard, le mercato s'est ouvert le 1er janvier. Il y a deux Brésiliens qui sont arrivés de Botafogo. Déjà, Jefinho, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est parti. Ça bouge, on en est où? À quoi on doit s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines?
Il fait froid.
Oui.
Oui, et ben mes radars, ils ont pris froid.
Ah mince.
Je peux pas vous dire grand-chose.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Peut-être.
Vous les réchauffez un petit peu.
Je vais les réchauffer, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a déjà ces joueurs, mais c'est vrai que clairement, du côté de l'OL, on cherche quelqu'un au milieu de terrain. Il faudra voir aussi ce que font, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant Corentin Tolisso. Je vous livre que des rumeurs. Je sais absolument pas exactement ce qu'il en est. Et puis au niveau de l'attaque, voilà.
Alexandre Lacazette, je vous coupe. Vous nous aviez dit il y a quelques semaines qu'il y avait très certainement un départ pour les États-Unis. Est-ce qu'il va rester ou pas?
Il a beaucoup discuté avec une franchise américaine, Los Angeles pour être précis. Alors, est-ce que maintenant vu le nouvel entraîneur, vu qu'il a, voilà, est-ce qu'il veut quand même rester? La tendance est plutôt à ça, mais en trois semaines, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer beaucoup de choses. Au niveau des attaquants, on a oublié de dire que Ernest Nuhama n'est pas là non plus pour cause de Cannes.
Vous l'aviez dit dans la première partie de l'émission, effectivement. Bon, vous avez compris, Edouard va revenir, on va en reparler de ce mercato.
Je répare mes
Noël
radars.
Qui va beaucoup mieux, à l'inverse du Loup. Qui nous inquiète. Ça s'est très mal passé ce week-end. On voit tout cela avec Nicolas Flon.
La série noire du Loup à l'extérieur continue en 2024. Septième match de championnat hors de ses bases cette saison. Et septième défaite pour Lyon, largement battue sur la pelouse de Toulouse. Avec 7 essais encaissés et aucun point marqué, les Rodaniens s'inclinent 45-0. Le Loup est avant-dernier et barragiste du top 14. L'ASVEL se sépare déjà de Gianmarco Pozzecco. Moins de 3 mois après son arrivée, l'entraîneur italien a été remercié par le club lyonnais. La faute notamment à un bilan catastrophique en Euroleague. Après 19 matchs, Lyon-Villeurbanne compte 3 victoires pour 16 défaites. Insuffisant pour la direction rodanienne. Pozzecco est remplacé par son adjoint Pierrick Poupet. Il dirigera son premier match ce mardi à Belgrade. Et puis l'ASVEL féminin a parfaitement lancé 2024 avec une victoire convaincante face à Roche-Vendée. Un septième succès cette saison qui s'est dessiné grâce notamment à Marine Johannes, étincelante hier, et meilleure lyonnaise avec 22 points. L'ASVEL féminin s'impose 85-59 et pointe à la 6e place du championnat.
Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette reprise de Cop Gun en 2024. Soyez au rendez-vous lundi prochain. Jérémy Pain à ma place pour débriefer le match face au Havre. On se retrouve très vite sur BFM.
Et bon courage à vous.
Très belle soirée. Merci Edouard. Très belle soirée à tous.